Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 43, voilà, quand on pense à Dieu, à son œuvre, à ce qu'il est capable de faire, Dieu est grand, son œuvre est belle. Ce qui nous interpelle, c'est ce que Dieu peut faire au travers d'un homme, d'une femme, d'un jeune, même d'un enfant. Quand il trouve un cœur, il peut faire de grandes choses au travers d'un être peut-être faible. Et ça, ça nous émerveille, ça nous dépasse. Je dis, mais Dieu, que tu es grand. Tu ne considères pas ce que les autres, ce que les hommes considèrent, ils ne regardent pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et Joseph a été un de ces instruments que Dieu a trouvé, que Dieu a pu façonner, que Dieu a pu utiliser pour la bénédiction d'un grand nombre. Voilà, je vous propose une lecture dans Genèse 43. Nous lirons à partir du verset 8. Genèse 43, 8. Juda dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face. Je serai pour toujours coupable envers toi, car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches, des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Amen. » Voilà, quelle belle histoire quand on regarde la fin de la Genèse et plus précisément à partir du chapitre 37, il y a l'histoire de Joseph qui a été, depuis le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50, un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, un témoin. Là où il a été placé, il a été un témoin. Et ce que les autres remarquaient de Joseph, ils disaient « Dieu est avec lui ». Que l'on puisse aussi dire de nous, nous sommes les témoins de Christ, et que l'on puisse dire, eh bien, nous voyons que Dieu est avec lui, avec elle. C'est le meilleur témoignage, parce que Dieu en nous, il y a une espérance extraordinaire. Quand on regarde cette histoire de Joseph, et plus particulièrement vers la fin où s'accomplit le plan de Dieu que Dieu lui avait révélé, on peut dire que que Joseph a agi avec sagesse, avec miséricorde, une belle histoire, et il a été en bénédiction pour tout un peuple, finalement, pour tout son peuple. Il a été en bénédiction. Devant, il aime, il pardonne, et devant la méchanceté des péchés, il y a l'amour et le pardon. Il ne retiendra rien de ces actes graves que ses frères ont commis à son encontre. Il ne retiendra rien, il ne revendiquera rien. Il fait grâce. Il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui dirige sa vie. Et c'est une force quand nous savons que Dieu est avec nous et qu'il dirige notre vie. C'est une force. On n'a pas besoin de chercher des stratagèmes humains, des solutions humaines. Quand Dieu est avec nous et confronté à ces actes-là, les choses ont été révélées pour quand Joseph les a admis en sa présence, les choses ont été quand même révélées, ils en ont parlé, ils ne pointent pas du doigt, ils ne se vengent pas, et il ne veut pas leur faire payer leurs erreurs, il ne les menace pas, il les accueille, il les invite, il les accueille, il leur donne à manger, et tous les usages d'hospitalité. Alors certainement il y a un travail de conviction qui est là quand ses frères sont en présence de Joseph. Eux, ils ne le reconnaissent pas, mais lui, il les reconnaît. Il y a un travail de conviction, certainement, dans leur cœur. Dans leur cœur, ils ont dit, on a fait le mal et Dieu va nous juger. Mais Joseph a plutôt une parole d'encouragement, mais même une parole de délivrance, une parole de guérison. Et si on peut résumer l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, en Joseph et envers sa famille, on peut lire au chapitre 50 et verset 20, c'est résumé dans ce verset, Genèse 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte. » Combien c'est beau. Il a pu résumer l'œuvre de Dieu dans sa vie et au travers de sa vie. Quand Dieu trouve un cœur, quand Dieu trouve un instrument, un serviteur, un jeune, moins jeune, quand Dieu peut trouver quelqu'un dans lequel il va avoir la liberté de travailler, c'est une grande, grande, grande bénédiction. Une grande bénédiction qui est là pour ceux qui sont autour. Cela veut dire, c'est Dieu qui a permis toutes ces circonstances. Il leur dit ainsi. Pendant des années, eh bien, tout ce qui est arrivé, toutes les péripéties, toutes les épreuves, partout où il s'est retrouvé, ceux qui ont lu, bien sûr, l'histoire de Joseph, nous apercevons qu'il est passé par des moments très, très, très difficiles, mais il leur dit en quelque sorte, ce ne sont pas les circonstances qui m'ont admis là, c'est même pas vous, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour en arriver à ce jour. Toutes ces années, eh bien, pour arriver à ce jour où Joseph va être un moyen de bénédiction pour tout un peuple. Joseph a été conduit en Égypte par la main de Dieu, non pour être béni lui-même, mais pour être en bénédiction pour les autres. Et ça, il faut que nous le retenions, nous le savons, mais il est bon de le rappeler. Il est bon de rappeler que, eh bien, nous devons être les uns et les autres en bénédiction pour ceux qui nous entoure. La bénédiction, elle n'est pas pour nous seulement, on ne dit pas « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi », mais « Seigneur, voilà, je veux être un instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour de moi ». Et il y en a beaucoup qui ont besoin de la grâce du Seigneur. La pensée aussi de Dieu pour chacun d'entre nous, et celle-ci, Dieu transforme le mal en bien. C'est dans sa vision de Dieu. Il transforme les circonstances négatives en moyens de bénédiction. Quand on le sait, eh bien on accepte mieux. Quand on sait que Dieu va transformer les circonstances négatives en moyens de bénédiction. Dieu le fait et il le fera. Peut-être on a été l'objet d'une injustice, on nous a fait du mal, peut-être que ça nous ronge, peut-être que ça nous abat, mais Dieu veut faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il veut faire concourir ces choses, et nous l'avons dans Romains chapitre 8, verset 28. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que quand la bénédiction de Dieu qui descend de son cœur, qui descend du ciel, que Dieu nous communique, qui descend sur notre vie, eh bien qu'elle ne s'arrête pas sur notre vie, mais qu'elle puisse couler sur la vie des autres. Ça, c'est la plus grande bénédiction, c'est quand Dieu nous bénit pour bénir les autres. Nous en avons parlé déjà, et nous avons parlé aussi du don, nous verrons ensemble dans Abraham, nous avons vu, qui a offert, cette femme qui a offert le vase, le parfum de grand prix, et on parlera aussi du don. Vous allez dire, mais nous on est venus pour recevoir. Eh bien Dieu nous appelle à lui donner. c'est quand même à contre-courant. Ouais, on a besoin, Seigneur, bénis-nous, secours-nous, secours-nous, secours-nous. Et Dieu nous dit, donne-moi. Et on va voir un peu ce que Dieu est capable de faire. Cette bénédiction qui ne s'arrête pas sur moi, mais qui puisse aller sur les autres. Nous avons le témoignage de Georges Müller, cet homme que Dieu suscite encore dans notre génération, des Georges Müller. Cet homme qui a été en bénédiction pour des milliers d'enfants et d'adultes. Il a été en bénédiction. Et il le dira lui-même, il a eu dans son carnet où il inscrivait tous les sujets de prière et quand c'était exaucé, il le signalait au bord. Il parle de plus de 100 000 exaucements de prière dans toute sa vie chrétienne, son ministère, plus de 100 000 exaucements, et c'est précis parce qu'il a chaque fois noté quand c'était exaucé. Mais il dira lui-même que des millions et des millions sont passés entre ses mains et il n'a rien retenu, lui, rien pour lui. Tous ces millions sont passés, vous savez, il recevait des dons du monde entier. Tous ceux qui savaient l'œuvre qu'il était en train de faire pour les enfants pauvres de Bristol en Angleterre, cette région, des enfants qui étaient dans la misère, il les recueillait, des milliers et des milliers, et bien du monde entier, il y avait des dons qui arrivaient. Et lui dira, il a fait le calcul aussi, parce qu'il était précis, notait tout, des millions, je ne sais plus combien, mais des millions sont passés par ses mains, mais il n'y a rien eu pour lui, ça n'a fait que passer. Mais c'est ça que Dieu veut. Sinon, on devient vite égoïste. Hein. Mais que ça puisse passer, que ça coule et que ça aille bénir les autres. Voilà, ces meilleures bénédictions qui passent par nous, vont sur les autres pour les bénir. Pour qu'on ne soit pas égoïste, mais quand notre cœur est ouvert, en contact, comme nous l'avons dit dimanche matin avec le Maître, eh bien, dès que notre cœur s'ouvre à Dieu, vraiment, tout à coup, on voit des besoins. On voit des besoins. Alors que quand on est centré sur nous, on ne voit rien. Mais quand notre cœur s'ouvre et sensible au Saint-Esprit, à la présence de Dieu, eh bien, tout à coup, on voit des besoins, des gens dans le besoin, et Dieu nous envoie pour les bénir. Dieu nous envoie pour les bénir. Joseph ne demande pas à être justifié, il n'implore même pas la justice de Dieu sur lui en disant « Mais voilà, ils m'ont fait du mal, Seigneur, justifie-moi maintenant. Toutes ces années de galères que j'ai subies, c'est à cause d'eux. » Mais non, il dit rien. Il dit rien du tout. D'ailleurs, nous savons que si on demande de nous d'être justifié, vous savez ce qui se passe ? Vous savez ce qu'est la justice de Dieu ? Finalement. Bien, la justice de Dieu, elle porte un nom, Jésus. Puisqu'il est dit que Jésus a été fait pour nous justice. Et si on demande la justice de Dieu sur notre vie, eh bien on demande, je retranscris, mais on demande à ce que Dieu bénisse nos ennemis. C'est cela en fait. Parce que Jésus est venu pour bénir. Et si nous on demande à être justifié, Seigneur, fais-moi justice, eh bien, oui, d'accord, ben, c'est Christ. Et ça va bénir ceux pour qui on prie. Vous avez lu dans Romains chapitre, je crois que c'est le chapitre 13, mais quand il est dit que laisse agir la colère, ne te venge pas, laisse agir la colère, car ce sera des charbons ardents que tu amasseras sur la tête de tes ennemis. Vous vous rappelez de cette parole ? Oui ? Voilà. Et donc c'est quoi ? Les charbons ardents, c'était une bénédiction, c'est pas la malédiction qui va tomber. Dieu jugera en son temps, mais là, pour l'instant, vous savez que le feu, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment une bénédiction. Quelqu'un qui n'avait plus de feu, ben, c'était très difficile, hein. Et les charbons ardents, finalement, on a l'impression que c'est le jugement. Ça appartient à Dieu, le jugement. Mais si tu pries pour tes ennemis, si tu pries pour, eh bien, le charbon ardent, ça veut dire qu'il y aura de nouveau, du feu dans la maison de ton ennemi. Ça va à contresens, hein, de la justice humaine, de la réaction humaine, ça va à contresens. Mais c'est ça. notre Dieu, il est comme ça. Après, à la fin des temps, Dieu jugera par rapport à chacun. Mais pour l'instant, Dieu nous appelle à bénir ceux qui sont autour de nous. Mais cela va aussi dans la droite ligne du sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, et verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Waouh, c'est une parole. Mais nous sommes appelés à cela. Dieu nous appelle à cela. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de Christ. C'est là qu'on a besoin de sa grâce. C'est là qu'on a besoin du secours du Saint-Esprit. Naturellement, vous allez me dire, ça c'est impossible. Et je vous dirai, c'est sûr, c'est impossible. Mais nous ne sommes pas naturels, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit et nous pouvons vivre des choses que nous ne pouvions pas vivre, réfléchir d'une manière où nous ne pouvions pas réfléchir, avoir une autre vision de la vie et parce que le Seigneur est dans notre cœur et il nous remplit de son esprit. Que Dieu soit béni. Quelle grande bénédiction! En agissant ainsi, on sera sur la même longueur d'onde que Christ. Cela nous libère, cela libère notre cœur, notre âme, notre esprit, ça nous libère. Quand on dit « Seigneur, finalement, ça t'appartient, moi tu m'appelles à prier, à bénir, je vais le faire ». Mais comme ça, on n'a pas des chaînes d'amertume, des choses qui nous retiennent. On se dit « Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, moi je veux, tu m'appelles à ça, je veux le faire ». Ah ouais, mais quand même, tu devrais… Non. Non, sinon j'agis humainement, je vais penser à ça, je vais être lié dans ma tête, dans mon esprit, dans mes pensées, et je vais passer à côté de la bénédiction de Dieu. Eh ouais. Que le Seigneur nous aide. Il y a une terrible famine dans le pays de Gozen, dans le pays de Canaan, il y a une terrible famine. Et quand Jacob fait partir ses fils en Égypte, il a appris qu'en Égypte, il y avait du pain, il y avait du blé, il y avait vraiment une bénédiction. Eh bien, il envoie ses fils chercher des vivres en Égypte. Mais là, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, malgré lui, avec les circonstances, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et vous vous rendez compte, c'est parti de deux songes. Dans le chapitre 37 de la Genèse, vous voyez les deux songes de Joseph, c'est parti de là, il était un adolescent, c'est parti de là l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, et ça en arrive jusqu'à ce jour-là pour se réaliser. Alors il y a eu des années qui se sont écoulées, Il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées pour que le plan de Dieu, il arrive à son accomplissement. Imaginez un instant, ce qui se passait dans le cœur de Joseph quand il se trouve dans les épreuves, accusé injustement, il se retrouve en prison, d'abord dans une citerne, puis en prison il est accusé injustement, etc. Et imaginez ce qui doit se passer dans son esprit. Seigneur, tu m'as montré ta vision, tu m'as montré ton plan, c'était clair, ces deux visions qu'il a eues, c'était clair. Mais quand il traverse ces épreuves, il devait penser, mais Seigneur, j'ai dû me tromper, ou c'est pas possible. Les années passent, les difficultés sont de plus en plus grandes, je suis là au fond d'un cachot, Seigneur, mais ton plan, je me suis trompé, ou tu as changé d'avis, ou je sais pas, tu me punis, ou c'est pas possible que… Imaginez un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Si ça dure un mois, l'épreuve, ça va, mais quand ça dure plus de 12 ans, c'est autre chose. Et dans le cœur et dans la tête de Joseph, ça devait travailler. Toutes les circonstances allaient à l'encontre, sur le plan humain. Sur le plan humain, ça allait à l'encontre de l'appel de Dieu, de la vision de Dieu. Ça allait à l'encontre. À l'encontre, mais pas du plan de Dieu. Dieu était aux commandes. Dieu dirigeait toutes choses. Toutes les circonstances étaient dans la main de Dieu. Peut-être quelqu'un au milieu de nous se dit aussi, peut-être on a reçu un appel, quelque chose, il y a des années, et puis il y a eu une série de difficultés, d'adversités, et puis avec le temps on se dit, mais est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que ma vie n'est pas conforme? Enfin, il y a des tas de questions qu'on peut se poser, parce que, voilà, ben non, le Seigneur, quand il nous appelle vraiment. Quand il parle clairement. Quand il donne un don, il le donne, il ne se repent pas de ses dons, de ses appels, Dieu est comme ça. Et malgré que les choses ne vont pas dans le sens de la vision, de l'appel de Dieu, mais oui, ça va dans le sens, c'est que Dieu nous travaille et nous façonne. Vous savez que pour être un moyen de bénédiction, il y a du travail à faire là. Dieu ne nous appelle pas à faire des études de théologie poussées dans les... Mais Dieu nous appelle à vivre l'expérience avec lui, une expérience de transformation, de façonnage. Vous savez, si dans notre cœur, il y a toujours de la rébellion, de la revendication, s'il y a toujours ces choses, on ne peut pas être un instrument entre les mains de Dieu. Utile, propre, parce que quand on va traverser ces grandes difficultés, eh bien nous allons toujours lever le poing où c'est pas bon. Dieu veut nous délivrer intérieurement pour que nous soyons des moyens de bénédiction. L'appel de Dieu est réel, mais il veut nous façonner et nous former à la ressemblance de Christ. Dieu ne nous appelle pas à avoir une apparence, un poste, une fonction pour la forme, mais Dieu nous appelle à être une réponse pour ceux qui sont dans le besoin. Dieu nous appelle comme instrument de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Jésus n'est pas venu en revendiquant quoi que ce soit, mais la Bible nous dit que quand il voyait la foule, il était ému de compassion pour cette foule, parce qu'il la voyait, lui, avec des besoins. Il la voyait languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà la vision que Jésus avait. Il est venu pour eux, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour avoir un poste à Jérusalem, une fonction, un titre, voilà, le Fils de Dieu. Non, pas du tout, il est venu en réponse à Dieu, il dira, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Vers ceux qui sont dans le besoin. Et pour répondre à l'appel de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin, il faut que pas être égoïste, il faut pas être centré sur soi, même que sur notre famille. Voilà, Dieu nous appelle à avoir des cœurs larges, des cœurs ouverts. Paul leur dit aux Corinthiens, il dit élargissez vos cœurs, que nous ne soyons pas à l'étroit. La bénédiction, elle n'est pas juste pour nous, pour notre famille, à la limite pour notre église. Non. La bénédiction, elle doit rejaillir, elle doit couler sur ceux qui sont dehors parce qu'ils sont dans le besoin. Dieu nous envoie, et plus les besoins sont grands, nombreux, dans ce monde, plus il y aura besoin d'ouvriers qualifiés, formés, pour être une réponse à leurs besoins. À l'époque, on formait les ouvriers, il fallait être ouvrier qualifié, hein. Dans certaines disciplines, il fallait ouvrier qualifié. Après, il y avait des grades, et plus on apprenait, plus on était qualifié. Mais avec Dieu, il veut des ouvriers qualifiés, façonnés, c'est pas une technique, mais façonnés dans notre cœur pour être une réponse aux besoins de ce monde. Et quand ils arrivent devant Joseph, c'est... les frères de Joseph arrivent d'abord en Égypte, et là il y a Joseph, là il y a la bénédiction. Puisqu'il a été façonné pour être un moyen de bénédiction, là où il y a Joseph, il y a la bénédiction. Le pays a prospéré, les cultures ont prospéré, ils ont été préservés de la sécheresse, il a mis de côté tout ce qu'il fallait pendant des années et des années. Donc là où il y a Joseph, il y a la bénédiction. C'est comme ça, il a été formé pour ça, façonné pour cela, donc il est un moyen de bénédiction. Et les frères de Joseph arrivent en Égypte, ils vont profiter seulement de la bénédiction, ils vont venir pour consommer cette bénédiction. Il tend de les mains pour recevoir, mais pas pour donner. Et quand ils arrivent devant Joseph, il est dit dans le chapitre 42, versets 8 et 9, nous l'avons lu, que Joseph, au chapitre 42, j'ai dit, oui, Joseph, en les voyant se prosterner devant lui, il les reconnut. Et vous savez quoi? Juste après, il est dit qu'il se souvint des songes. Vous voyez, toutes ces années, ce jour-là, quand les frères se prosternent devant lui, hop, les songes lui sont revenus. Toutes ces années, pour en arriver là, la vision s'accomplit là, maintenant. Vous vous rendez compte, Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle pendant toutes ces années. Il a tenu la vie de Joseph dans ses mains. Il l'a façonné. Il n'a pas permis que l'ennemi atteigne à sa vie. Il l'a gardé, protégé. Mais Joseph en a quand même bavé hein, toutes ces années. Mais c'était vraiment pour en arriver à ce jour-là. Peut-être que Joseph a prié intérieurement en disant « Seigneur, tu es grand, tu es fidèle. Jamais j'aurais... ça me dépasse. Seigneur, au fond du cachot, j'étais désespéré. J'ai dit, c'est fini, il n'y a rien, les années passent, je demande à deux que j'ai bénis, souviens-toi de moi quand tu seras dehors, quand tu seras libre. » Et il est dit, la Bible nous dit, il l'oublia. Waouh, il l'oublia. Terrible. Et devant, la vision est en train de s'accomplir, ce que Dieu lui avait dit il y a des années, c'est en train de s'accomplir. Il les reconnut et il se souvint des songes. Alors peut-être que Joseph, ouais, intérieurement, il a dû louer le Seigneur. Ensuite, il retourne vers Jacob et il discute. Jacob a peur de perdre Siméon et maintenant il lui demande Benjamin. Mais au verset 11, il est dit que Jacob se rend à Dieu. Voilà, il dépose les armes. C'est bon. Et il dit cette phrase qui est là. Il dit, nous l'avons lu ensemble, au verset 11e. Non, c'est pas au verset 11. Si, verset 11. Voilà. Puisqu'il le faut, faites ceci. Après bien des discussions, après bien des argumentations, il dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Mais ça traduit un peu, faites ce qu'il vous demande. Faites ce qu'il vous demande. Finalement, il reconnaît la volonté de Dieu. Il y a eu une autre circonstance où Jacob a déposé les armes. Vous connaissez, c'était dans le chapitre 32 de la Genèse, au torrent de Jabbok. Jacob était plein de lui-même, imbu de sa personne. C'était le supplanteur, le menteur, le rempli. Et au torrent de Jabbok, il va lutter avec l'ange. Il lui dit, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et l'ange va le frapper à la hanche. Et à ce moment-là, Jacob, au petit matin, eh bien, finalement, il a vaincu, mais il a été vaincu. Et il ne s'appellera plus Jacob, mais Israël, prince avec Dieu. C'est mieux à porter que menteur ou supplanteur. Hein. C'est prince de Dieu ou prince avec Dieu, Israël. Et là, il avait rendu les armes. Voilà, son cœur a été changé, son caractère, son nom a été changé. Voilà la transformation que Dieu veut faire dans nos vies. Nous vaincre, afin que nous soyons vainqueurs. Et Joseph a été vainqueur. Et là, il ne résiste plus dans ses pensées, ses argumentations. Là, il se rend à Dieu et ce sera la bénédiction. Comme je le dis souvent, il faut déposer les armes. Vous savez, les argumentations, les palabres, on dit ça, les palabres. Hein? Oui, mais ça, il faudrait que mes fils... Ça nous fait perdre du temps, de l'énergie, ça nous énerve, ça peut énerver les autres aussi. Hein. Mais quand on dépose les armes, on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et là, ça veut dire ça, faites-le ce qu'il vous dit, faites-le. Voilà, je suis prêt même à perdre mes enfants, mais faites ce qu'il vous dit. Ça nous rappelle la parole dans Jean au chapitre 2, Marie qui dira au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, mais il n'y a plus de vin, il faudrait ci, il faudrait là, et chacun dit la sienne. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, donc Jacob ne résiste plus, il dépose les armes, et c'est là que la bénédiction va être enclenchée. Les frères avaient bénéficié de l'Égypte, de la bénédiction, mais ils ne pouvaient plus recevoir. Maintenant, il fallait qu'ils donnent. Vous savez, donne, Seigneur, bénis-moi, secours-moi. Là, il fallait qu'ils donnent maintenant pour recevoir la bénédiction, et c'est ce que Jacob va leur dire. Il va leur dire, ce que nous recevons de Dieu, ne le perdons pas avec le temps, que ce soit toujours renouvelé. Vous savez, si on reçoit pour nous, ça va stagner. Mais quand on reçoit pour donner, on est renouvelé. Moi, je crois que si nos cœurs sont grands ouverts, Dieu va nous montrer des besoins, des personnes, des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais vues, des gens peut-être qui cherchent Dieu, des gens qui ont besoin de quelque chose et que nous avons, eh bien, on va les voir, on va les repérer parce que notre cœur s'est ouvert et le Saint-Esprit va nous conduire vers eux. Alors, Jacob a dû se placer devant le Seigneur parce que c'était un homme qui craignait Dieu, qui priait, il a dû se placer devant le Seigneur et penser, si cet homme règne sur l'Égypte, s'il vous a laissé repartir avec des richesses et du grain, s'il a promis de rendre Siméon, mais faites-le, faites ce qu'il vous dit, faites-le, faites ceci, allez-y. Finalement, faites la volonté de Dieu. Inclinons-nous finalement devant la volonté de Dieu. Laissons le plan de Dieu s'accomplir. Il ne connaissait pas la portée, Jacob, ni les fils de Jacob, les frères de Joseph ne connaissaient pas la portée que ça allait avoir, mais que Dieu nous aide à le laisser faire, à faire sa volonté, à arrêter de perturber avec nos paroles et nos pensées humaine, comme je l'ai dit souvent, on peut parler mathématiques, parler mécanique pour ceux qui sont qualifiés, on peut, voilà, mais sur le terrain de Dieu, arrêtons de se prendre pour sérieux. Sur le terrain de Dieu, on ne sait pas ce qu'il faut. On ne sait pas quelle est la volonté de Dieu, le meilleur, on ne sait pas. Et nous, on argumente, oui, mais il faudrait ceci. Non. Seigneur, je plie le genou devant toi, que ta volonté soit faite. Seigneur, agis, que ta volonté soit faite. Sinon, on fait comme les disciples d'Emmaüs, on parle, et oui, par les discours. Mais de quoi vous entretenez-vous pour être aussi triste? Ben voilà, on parlait que Jésus avait dit que, voilà 3 jours qui se sont passés, et toujours rien. Et, vous voyez, quand on s'entretient comme ça, on est obligé d'être triste. Mais quand on s'entretient de la vie de Dieu en nous, de ses promesses, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et Jacob va dire aussi, donnez les meilleures productions du pays. Les meilleures, amenez-leur tout ce qu'on a de meilleur. Ça, c'est bon, ça. Et ça nous fait penser, bien sûr, pour Dieu, il faut qu'on donne le meilleur. Non ? Donne pas des restes à Dieu. Donne pas des brebis chétives. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour Dieu? Les meilleures années? Les meilleures heures de la journée? On donne le meilleur pour Dieu. Ce n'est pas des restes. Oh, je vais prier. Oh, merci Seigneur pour cette bonne journée. Je vais lire un verset. Hop, j'arrive pas à la fin, je m'endors. Est-ce que c'est les meilleures heures pour Dieu, ça? On ne s'en aperçoit pas, hein, mais finalement, on fait tellement de choses. Et s'il reste un peu, on le donne à Dieu. Non, ça ne vous arrive pas, ça? Ah oui, soyons honnêtes, ça nous arrive. Mais il ne faut pas lui donner le reste, la brebis chétive. On donne le meilleur à Dieu. Et Jacob a dit, mais apportez tout ce qu'on a de meilleur. Et dans un contexte de famine, hein, voyez combien il est inspiré, Jacob. Dans un contexte de famine, il dit, mettez les meilleures productions, les amandes, les pistaches, les trucs. Mais, dans un contexte de famine, il aurait pu dire, bon, attendez un petit peu, juste un échantillon, on lui donne des productions du pays, et puis le reste, on va le garder, tu vois. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas on garde, on a peur, on a crainte, non. Avec Dieu, ce qu'on lui donne, c'est pas une perte, mais c'est un investissement. Puisqu'il le faut, faites ceci, faites-le. Puisqu'il le faut. Ouais, c'est... Dieu nous demande, il nous demande de lui donner, on lui dit, mais j'ai rien, qu'est-ce que je peux donner à Dieu ? Mais des fois, il nous demande notre Isaac, notre parfum de nard pur, il nous demande, voilà, apportez-le, et c'est un investissement, c'est pas une perte, ce qu'on donne à Dieu, c'est pas une perte, mais c'est un investissement. Dieu nous le demande. Nous donnons au Seigneur, afin que la bénédiction qui descendra sur nous ne s'arrête pas sur nous, mais coule sur les autres. Voyez, je vais terminer, mais voyez quand le peuple hébreu dans le désert, sera plus loin, mais le peuple hébreu dans le désert, ça a été toujours donne, donne, donne. Ah Seigneur, et puis ça, on n'est pas content de ça, il faut changer ça. Et puis le leader, là, le conducteur, là, il parle pas que par lui, Dieu, il parle aussi par nous. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un Moïse? Qu'est-ce qu'on a besoin de... Et il râlait, hein. Il râlait. Et pourtant, Dieu a pourvu, il a été fidèle pendant 40 ans, Dieu a pourvu dans tous les domaines, même plus. Dieu leur a montré sa gloire, des choses que vous et moi, on ne verra jamais. Mais eux, ils l'ont vu. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre, la colonne, la nuée, ils ont vu ces choses, ils ont vu Dieu manifester devant leurs yeux, et c'était des râleurs professionnels. Voyez, eux, c'était donne la bénédiction pour moi, pour ma maison, pour moi. Et le résultat, c'est quoi? Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés en Canaan. C'est terrible, hein? Terrible, quand on a une vision de la vie chrétienne comme cela, c'est un peu misérable. Hein, quand ouais, Seigneur, de là, donne. Non, on doit se donner au Seigneur. Finalement, le meilleur, c'est nous. On se donne au Seigneur, disant, Seigneur, tu m'as sauvé pour que je sois un instrument entre tes mains, un serviteur, une servante, afin que je puisse bénir ceux qui sont dans les ténèbres, dans la mort, ceux qui n'ont rien, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont aucune parole d'espérance. Moi, j'entends 300 sermons dans l'année, et si je vais sur Internet, ça fera 600. J'entends toutes ces choses, j'entends ces merveilleux messages dans tout ce que j'écoute, c'est formidable. J'écoute un tel, et ça, quand j'ai pas assez, j'écoute encore un tel. Et toutes ces choses que nous recevons, qu'est-ce que nous en faisons? Bénis-moi. Pourquoi faire? Joseph a été travaillé, il a été façonné, il est passé par les difficultés. Pourquoi? Il ne comprenait pas certainement pourquoi, mais Dieu l'avait... Pour ce jour-là, où il allait être un moyen de bénédiction pour un peuple nombreux, non seulement pour ses frères, sa famille, mais pour tout le peuple. Et ils s'installeront dans la région de Gozen. Et ils ont été bénis aussi, ça a prospéré. Joseph a été en bénédiction, et eux, ils ont été en bénédiction les uns pour les autres, et ils ont prospéré. Nous pouvons, que pouvons-nous offrir au Seigneur? Souvent, on vient pour recevoir. Et c'est pas mauvais aussi, parce que la Bible nous dit, faites connaître vos besoins, c'est pas mauvais. Mais comme je le disais dimanche, la plupart de ce qu'on va demander, Dieu le sait, il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Ouais, mais moi je m'inquiète pour ça. Mais ne t'inquiète plus, mon frère et ma sœur, je te le dis et je me le dis, ne nous inquiétons plus pour ceci ou pour cela, parce que c'est compris dans, si on cherche le royaume de Dieu, si on cherche le Seigneur, on a une communion avec lui, on veut le servir de tout notre cœur, le reste Dieu va pourvoir. C'est pas compliqué pour Dieu d'ouvrir une porte pour un travail, pour une maison, pour ceci, une voiture, pour guérir quelqu'un. C'est pas compliqué pour Dieu. Ce qui est compliqué, c'est qu'on plie le genou devant lui et on rend les armes plus d'argumentation, ni envers lui, envers Dieu, mais ni envers les hommes. Plus d'argumentation, de pensée, il faudrait que tu devrais faire ça, et ceci, et cela. Moi déjà, faut se dire, ben, moi je ne sais pas trop déjà moi comment me diriger, comment je vais donner des directions à mon frère ou ma sœur. Et ceux qui les font, renvoyez-leur au chaud en hiver et à la clim en été chez eux. Ça ne sert à rien. C'est le Seigneur qui doit nous parler. Dieu doit nous parler. Mon frère, ma sœur, il peut me dire, je prie pour toi, pour que Dieu t'éclaire dans cette situation, mais qui je suis, moi, pour te dire, tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Non, 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 non. On n'est pas qualifié pour ça. Il n'y a que Dieu. Voilà. Nous, on veut rendre les armes, déposer, plier le genou, offrir au Seigneur le meilleur, les meilleures productions, le meilleur. Ben, le meilleur, c'est les meilleures années, les plus, tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous voulons lui offrir, parce que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Mais on veut lui offrir. Plus, Seigneur, donne, 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 béni, 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 béni. Dieu déjà n'est pas sourd. Et puis, si on lui apporte au Seigneur, c'est un investissement qu'il va nous renvoyer avec, je ne sais pas combien de fois plus, mais pour bénir les autres. Mais si on veut garder, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de... Mais pourquoi faire, finalement? Pour vivre ma vie tout seul, de tous les jours, voilà. Non, Seigneur nous remplit pour bénir. Seigneur, mais je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, je ne vois pas, je, moi non plus, je ne peux pas vous dire, mais je sais que si on vient dans la présence de Dieu comme cela, en disant « Seigneur, voilà, je sais que j'ai été sauvé, pas pour vivre ma vie tranquille tout seul, ou en couple, ou en famille, mais j'ai été sauvé pour bénir les autres. » Vous rendez compte, Dieu peut nous conduire vers quelqu'un qui cherche Dieu, et parce que nous avons été disponibles et nous lui avons offert sur l'autel nos vies, il va nous diriger par son esprit vers quelqu'un qui cherche Dieu, et il va être sauvé. Et ça, ça vaut plus que tout, une personne de sauver. Mais si je vis ma vie tranquille, bénis-moi, Seigneur. Si je suis fatigué, redonne-moi des forces. Si je suis malade, guéris-moi. Si je suis, j'ai un manque, Seigneur, bénis-moi. C'est pas ça la vie chrétienne, hein. On le voit bien. Hein. Ça, c'est un petit peu à l'image du peuple hébreu. Mais non, on est là pour glorifier Jésus, pour que son œuvre s'étende, et la bénédiction soit le partage de tous. On va prier le Seigneur.